RFI, grand reportage. Andréane Mellard.
La Suède veut être le premier pays au monde neutre en carbone. La date butoir est 2045 et le chemin est tracé grâce à une loi entrée en vigueur au 1er janvier 2018 qui oblige le gouvernement à mener une politique en cohérence avec ses objectifs climatiques. Une loi qui contraint les entreprises et la société à la transition écologique. Comment un pays entier peut atteindre cet objectif? Quelles sont les recettes et les obstacles à surmonter? Un grand reportage en Suède par Frédéric Faux.
C'est la plus grande crise que l'humanité a jamais connue et pourtant elle a été ignorée depuis des décennies par ceux qui savaient. Nous n'acceptons pas cette situation, c'est pour ça que nous faisons la grève. On fait la grève pour notre avenir et nous allons continuer.
La voix de Greta Thunberg, cette adolescente qui a lancé les grèves de l'école pour le climat, est le symbole de l'engagement de la Suède dans le combat contre le réchauffement climatique. Le Royaume nordique a décidé d'atteindre la neutralité carbone en 2045, ce qui serait une première pour un pays de cette taille. Cela ne signifie pas renoncer à la modernité et vivre dans une grotte, mais ne plus utiliser de pétrole, de gaz ou de charbon pour produire son énergie ou se déplacer. Et pour Thomas Koberger, spécialiste des énergie renouvelable à l'université de Chalmers de Göteborg, cela n'a rien d'une utopie.
Oui, c'est devenu possible car faire de l'électricité à partir d'énergie renouvelable est devenu si efficace et si économique qu'on peut le faire même au nord de l'Europe sans subvention. L'électricité renouvelable est même devenue moins chère que le pétrole.
Faire attention à l'énergie que l'on consomme en Suède est une habitude qui remonte à loin. Pour retrouver les pionniers de cette écologie suédoise, il faut aller à Karlstad, à 300 km à l'ouest de Stockholm. C'est là, dans les années 80, qu'un groupe de jeunes ingénieurs et médecins s'est installé pour construire Tugelit, le premier éco-village du pays. Il s'agit en fait de 16 appartements répartis dans 4 bâtiments et qui se partagent les installations d'une maison commune. Lars Nilsson, un des pionniers, nous l'a fait découvrir.
Ici, on peut faire des réunions. Nos enfants viennent jouer l'après-midi. Si vous avez des invités, ils peuvent dormir car nous avons 2 chambres, une cuisine pour faire des repas communs et un sauna.
Nous voulions vivre ensemble, travailler ensemble, en utilisant le moins d'énergie possible. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on a économisé et on a tout financé nous-mêmes. Mais les voisins ne nous aimaient pas du tout. Ils pensaient que l'on était des gens suspects qui ne voulaient pas vivre comme les autres.
They thought we were suspect people who didn't want to live in an ordinary way.
Nous sortons de cette maison commune pour découvrir le quartier lui-même, un ensemble de bâtiments recouverts de bois, peints en rouge, avec un grand espace vert au milieu, et sans les voitures, qui doivent se garer sur un parking extérieur.
Pour que ce soit plus facile de transporter les choses de la voiture vers les appartements, on a ces charrettes. On peut mettre n'importe quoi là-dedans, pas besoin de la voiture. Chaque appartement a une grande verrière orientée plein sud qui permet de récupérer la chaleur pour la maison. Les murs internes et le sol sont en béton, ce qui permet de conserver l'énergie. Le chauffage vient de pompes à chaleur qui sont actionnées par les panneaux solaires, donc ça ne nous coûte presque rien. Sur ces panneaux, il y a des informations sur les jours de travail en commun. Chaque adulte doit ici travailler 5 jours par an. Ça sert pour peindre les maisons, remplacer les tuiles, on fait tout. Ce projet est basé sur la maîtrise de l'énergie, mais aussi sur le travail en commun. Faire les choses ensemble, je crois que c'est aussi important.
Ce style de vie décrié il y a 40 ans est aujourd'hui plébiscité et tout le monde veut vivre dans ces maisons modèles où la facture de chauffage ne dépasse pas les 100 euros par an. Mais la principale victoire de Tugelit est ailleurs. Ce souci d'économiser l'énergie et les ressources est devenu la norme. Il est par exemple au cœur de Hammarby Röstad, un nouveau quartier de Stockholm qui a accueilli ses premiers habitants dans les années 2000. Cet écoquartier est devenu une référence dans le monde entier à cause de sa taille. Il accueille quand même 25 25 000 habitants et des nouvelles exigences qu'il a imposées. L'architecte Yves Chantereau a fait partie de cette aventure et nous arrivons avec lui en tramway au milieu d'immeubles modernes de 5 étages. Rien de remarquable, mais il ne faut pas se fier aux apparences.
J'ai guidé beaucoup de groupes français qui sont assez déçus parce que disent il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que le paraître n'est jamais très important en Suède, c'est le résultat qui compte. L'idée, c'était la réduction de l'empreinte environnementale de moitié. Donc le tramway a été fait tout de suite, même quand la ville n'avait pas autant de quartiers, pour tout de suite créer cette idée qu'on réduirait le nombre de voitures. Ici, on a imposé une norme maximum, il ne faut pas qu'il y ait plus que 0,5 place de parking par appartement, c'est une obligation. Pour encourager d'autres modes de transport, non seulement tramway, mais aussi les premiers pools de voitures partagées. C'est d'une efficacité absolument incroyable, puisque 25 voitures fournissent entre 600 et 700 foyers. Mabuchestad a été un pilote pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Quelques années avant, la ville de Stockholm avait voté une charte écologique sur les matériaux employés, qui surtout visait à interdire des solvants, des diluants, des produits chimiques. Alors, c'est pas très très spectaculaire, mais en principe, les maisons, on pouvait les manger, quoi, parce que ça met en place une démarche intellectuelle et pousse les gens à bien faire, petit à petit.
Mais la vraie innovation du quartier, c'est la synchronisation des circuits de l'eau, de l'énergie et des ordures ménagères. Une fois leur recyclage fait, les habitants de Hammarbyhöstad font un sac de déchets compostables et un autre avec ce qui peut être brûlé. Ils vident ensuite leurs poubelles par des trappes qui sont reliées à un terminal dans lequel nous emmène Yves Chantereau.
On va monter l'escalier là, comme ça. Alors ça sonne un peu. Ces fractions sont ramassées automatiquement, de façon pneumatique, par un tuyau souterrain, et arrivent ici où ils sont catégorisés et rentrent dans le conteneur, etc. Là, vous voyez tout le terminal, en bas, les trois conteneurs des trois fractions qu'on a, tout arrive avec le même tuyau qu'on voit là-bas, si vous vous déplacez un petit peu. Ici, à Stockholm, c'est brûlé dans des centrales thermiques qui font de la cogénération électricité et chauffage urbain. Et puis, la partie qui est compostée est une partie intégrante du système de fabrication du biogaz. L'autre aspect, c'est que le ramassage pneumatique permet notre urbanisation, puisque pas besoin de route d'accès, on se contente de route piéton. Le système en soi n'est rien, c'est toute une réflexion à Mabuchestad qui a été menée sur le modèle d'Amarbus, c'est-à-dire comment on récupère l'énergie. C'est-à-dire, par exemple, les eaux usées sortent de l'immeuble à 29 degrés. La centrale des eaux rejette de l'eau propre à 4 degrés. Les 25 degrés sont renvoyés dans le chauffage urbain. Donc, c'est toute cette synchronisation de petits services, de petits gains énergétiques qui a commencé un mouvement. C'est pour ça qu'Hammarbyhöstad est important.
Hammarbyhöstad ou Tugelit sont des laboratoires. Mais aujourd'hui, 86% des Suédois vivent en ville et ils n'ont pas besoin d'habiter ces quartiers modèles pour faire vibrer leur fibre environnementale.
Je m'appelle Eric Olsson, je vis dans ce quartier, dans cet appartement depuis 20 ans. L'organisation est un peu comme une sorte d'association. Tous les locataires, on est membres. Dans cette idée, il y a aussi les discussions, enfin les idées de recyclage. Soigner l'environnement ici, dans le quartier. J'ai ramassé mes poubelles et on va sortir pour voir l'endroit de recyclage.
Voilà. Nous sommes à Södermalm, le quartier bobo de la capitale, avec ses avenues embouteillées, ses vieux immeubles. Un morceau de ville bâti il y a plus d'un siècle, quand personne ne se souciait de son empreinte carbone, mais où les habitants, comme partout à Stockholm, s'organisent, partagent et essaient de changer leur comportement.
On va traverser la cour. Et d'abord, il y a un endroit pour laisser les vélos. Oui, on est quand même pas mal à faire du vélo toute l'année. Moi, je fais toute l'année, je mets des pneus cloutés. Comme ça, je peux aller au travail tous les jours, 15 km aller-retour à peu près par jour. Si on passe par là, on a ce local. Alors, la laverie, l'espace commun, il y a trois machines à laver, très modernes, très efficaces. Återvinningsrum pour le recyclage. Première benne, c'est pour le papier. Et après, j'ai J'ai deux autres bennes d'une autre couleur pour le plastique. Là, il y a quatre bennes. Tout ce qui est carton et emballage pour le yaourt, le lait. Je laisse là aussi. Bon, c'est bon, je peux, des sacs en plastique, je peux les garder. Je les ramène pour m'en servir une deuxième fois. Et puis le verre, donc, qui est blanc, ou alors le verre de couleur. Ça fait un peu peur aussi de voir la quantité que je produis chaque semaine. Mais à côté, il y a deux poubelles plus petites où je peux mettre les déchets alimentaires.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce local de recyclage, il y a un endroit où il y a des objets, beaucoup de livres, il y a au moins 300 livres, mais aussi des pots en faïence, là, une sorte de sac de couchage dans un sac en papier. Qu'est-ce que c'est tout ça?
C'est pour partager notamment des livres, mais aussi d'autres objets, la vaisselle, par exemple, ou des vêtements que je ne veux pas jeter, parce que je pense que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et donc, je les laisse là.
Tous les experts le disent. Si l'on veut éviter d'émettre du CO2 sans sacrifier son confort, il faut donner une seconde vie aux objets. La Suède a mis en place un système de consigne qui recycle déjà 90% des canettes métalliques et des bouteilles plastiques. Mais elle mise aussi sur la réutilisation, l'occasion, la réparation. À Eskilstuna, cette logique a été poussée jusqu'au bout. Cette petite ville, située à une centaine de kilomètres de Stockholm, a ouvert Retuna, un centre commercial où l'on ne vend que de l'occasion. Une première au monde. La mairie a installé Retuna juste à côté de la déchetterie et l'idée est ingénieuse. Avant d'aller jeter ses poubelles, les automobilistes sont incités à déposer leurs objets qui, mieux qu'être recyclés, peuvent être réutilisés. Le résultat, c'est un immense hangar où l'on se rend compte de la masse d'objets que peut jeter une petite ville de 100 000 habitants. Anna Bäckström est la manager de Retuna.
Vous arrêtez votre voiture ici et le staff va vous aider à sortir vos affaires pour les mettre à l'intérieur. Vous n'avez rien à faire.
Voilà, donc on rentre dans un entrepôt.
On arrive dans un entrepôt immense. Alors là, on a des meubles, de l'électronique, de petits objets de décoration. Le principe est simple. Tout ce que l'on reçoit est trié par nos employés et réparti en fonction du business plan de chaque magasin. Donc les équipements sportifs, comme les vélos, sont mis de côté pour Tony, que nous voyons ici. C'est lui qui s'occupe du magasin Rebike. S'il pense qu'il peut vendre la marchandise directement, il la met dans son magasin. Il peut aussi réparer. C'est lui qui décide et qui fixe le prix aussi. C'est pareil pour les autres. Tout ce que vous voyez ici a été donné par des gens d'Eskilstuna, à peu près 100 000 habitants. C'est incroyable de penser qu'on peut alimenter 11 boutiques avec ça. Tout ça dit beaucoup de nous-mêmes, de la façon dont nous consommons. En Suède, on se lasse très vite des choses que l'on achète.
La véritable originalité du projet, c'est que nous ne sommes pas dans un marché aux puces, ni dans une vente de charité, mais dans un vrai centre commercial, avec un grand hall où l'on peut s'asseoir, un restaurant, et où chaque boutique est tenue par des commerçants indépendants, comme Amjad, manager de la boutique d'électronique.
C'est incroyable ce qui peut être jeté. Cette télé Sony par exemple, connectée, écran 55 pouces, n'avait aucun problème. Et regardez ce projecteur, la lampe n'a été utilisée que 500 heures, elle peut en durer 2000. Pourquoi est-ce qu'on l'a jeté? Tous les ans, nos ventes augmentent de 10%.
Pour les transports, qui représentent un tiers des émissions de CO2, la Suède a aussi décidé d'agir. C'est dans ce pays qu'est né le Fluxcam, c'est-à-dire la honte de prendre l'avion parce qu'il est trop polluant. Un mouvement qui a déjà affecté le trafic sur certaines lignes intérieures et qui profite aux trains plus écologiques. Gino, un Italien installé à Stockholm avec son amie finlandaise, adhère à 100%.
On s'est dit qu'on n'allait pas prendre l'avion cette année, donc on va retourner en Finlande et en Italie en train. On est inquiet pour le climat et on a voulu faire quelque chose de concret. À Pâques, nous allons à Turin, un voyage de 37 heures juste pour l'aller. Mais on n'a même pas regardé le prix des vols.
But we didn't even look at the flight.
Hey.
À Stockholm, c'est la réduction des émissions routières qui est devenue la priorité. La ville a été l'une des premières au monde à instaurer un péage urbain. Ces pistes cyclables sont utilisées été comme hiver. Et tous ces bus, depuis l'année dernière, roulent avec des carburants non fossiles, notamment du biogaz, un carburant très intéressant car obtenu par la fermentation des ordures ménagères. Jean-Bernard Collin, directeur technique de Scandinavian Biogaz, nous fait visiter ses installations de Södertörn, au sud de Stockholm, où arrivent chaque jour 200 tonnes de déchets ménagers.
Nous avons trois fosses de réception de 50 mètres cubes chacune. Les déchets sont acheminés par camion, ils sont récupérés chez les ménages. Vous pouvez constater que dans la fosse, on voit plutôt une sorte de masse brune relativement homogène. Après un certain mélange qui a été effectué par des vis sans fin au fond de la cuve, je dirais une heure, et ça donne déjà un aspect terreux aux déchets. On produit un compost qui permet de restituer aux terres agricoles des nutriments pour produire des denrées qui seront à nouveau consommées et retransformées en déchets. Voilà, la boucle est bouclée, c'est ce que nous appelons l'économie circulaire. Alors les digesteurs, vous voyez, sont deux grandes cuves d'une hauteur d'environ 20 mètres avec un volume d'environ 5000 mètres cubes chacune. Les digesteurs sont remplis à, mettons, 90% de façon à favoriser le contact entre les bactéries de la méthanogenèse et la matière organique. Les bactéries vont produire du biogaz, c'est-à-dire c'est un mélange de CO2 et de méthane, et ce biogaz va migrer naturellement vers le sommet des digesteurs, il va être récupéré au sommet de manière continue. Donc alors, ce qui se passe dans ces digesteurs, c'est exactement la même chose qui se passe dans nos estomacs, c'est-à-dire que la matière organique va être digérée et on va avoir du méthane qui va être généré, du CO2 qui va être généré, et l'ensemble forme le biogaz.
Les 8 millions de mètres cubes de gaz produits à Södertörn permettent à 10 000 véhicules de rouler pendant un an. La Suède est l'un des leaders mondiaux du biogaz. Elle a également été pionnière dans la mise en place de la taxe carbone en 1991, qui, en frappant les carburants fossiles, a contribué grandement à cette transition énergétique. Depuis, les émissions suédoises de CO2 ont baissé de 26%. Des réussites que Sverker Sörlin, professeur d'histoire dans l'environnement, attribue aussi à ce lien particulier qu'entretiennent les peuples nordiques avec la nature.
Dans notre tradition protestante, on a une relation plus spirituelle avec la nature. Cette relation individuelle avec Dieu, qui a toujours été mise en avant depuis Luther, a engendré aussi une relation plus individuelle avec la nature. Si vous attaquez la nature, vous m'attaquez moi. Alors qu'il y a une approche plus collective dans les pays catholiques, cette tradition du pardon qui les a rendus un peu plus lents dans leur réaction. C'est toujours la faute des autres.
Mais pour arriver à la neutralité carbone, il faudra plus que de la bonne volonté. La loi climat qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018 et qui a instauré cette date limite de 2045 a aussi créé un conseil de la politique climatique formé de 8 experts indépendants et chargé d'évaluer les politiques gouvernementales. Le 25 mars dernier, à Stockholm, ce Conseil de la politique climatique rendait son premier rapport à Isabella Lövin, ministre suédoise de l'Environnement.
Le rôle de cette institution est de donner des conseils, mais aussi de critiquer le gouvernement. Ce n'est pas une garantie, mais c'est pour avoir plus de transparence. Les membres du Conseil sont des experts indépendants. Nous essayons autant que possible de dépolitiser la question environnementale. Et c'est un moment historique, car c'est la première fois que nous recevons ce rapport qui va nous dire si nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs climatiques.
Et justement, la trajectoire prise par la Suède n'est pas si bonne que ça. Pour que le réchauffement de la planète reste en dessous des 2 degrés, conformément aux accords de Paris sur le climat, le pays devra redoubler d'efforts. Johan Kuhlenstierna est le vice-président de ce conseil climatique.
Le message principal, c'est que l'on avance trop lentement. Ces dernières années, en Suède, la réduction des émissions de CO2 est en dessous de 1% par an, alors que nous devrions être à 5 ou 7%. On ne va pas assez vite dans la bonne direction. Une de nos plus importantes recommandations, c'est que ces objectifs climatiques doivent être pris en compte dans toutes les décisions politiques, toutes les décisions liées aux investissements, aux infrastructures, à l'agriculture, au transport. En tout, nous avons 16 recommandations. Ça va être dur pour le gouvernement.
Il ne reste en effet qu'un peu plus d'une génération pour que les Suédois atteignent leur objectif de zéro émission en 2045. La Suède, un pays sans carbone, un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Pierre Chaffanjon.